Bonjour, c'est l'émission Il était une fois, l'émission sur le conte que vous connaissez bien maintenant. Et rappelez-vous, le conte, ça n'est pas que pour les enfants.
Somewhere over the rainbow, way up high, there's a
Bonjour, c'est Chloé Gabrielli, la conteuse. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire découvrir les contes de l'Asie. Je suis sûre que vous ne connaissez pas bien les contes de cette partie du monde. Et le bouquin que j'ai trouvé est celui de Henri Gougaud, aux éditions Seuil. Il y a vraiment des versions très très intéressantes. Je vous propose tout de suite de partir en voyage en Asie avec cette première histoire. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Wang. Il était généreux et beau. Il était estimé de ses amis et fort aimé de son frère Nai, qui était un lettré de bon renom dans la contrée. Wang n'avait cependant que peu de goût pour la vie tranquille des sages. Il était sans cesse tenté de courir au loin, à la découverte de terres et de gens nouveaux, et chaque année il quittait la maison familiale et n'y revenait qu'après de longs mois. L'esprit empli de paysages neufs. Un jour, il voyagea ainsi jusqu'à la ville de Chengqian, dans une auberge, au bord du fleuve. Il loua une chambre. Dès qu'il y fut installé, il s'accouda à sa fenêtre, contempla le ciel bleu, les eaux limpides, la majestueuse montagne, et trouvant le pays accordé au désir de son cœur, il décida de ne pas aller plus loin. La première nuit qu'il passa en ce lieu, une jeune fille lui apparut en songe. Elle était d'une beauté parfaite, rieuse et délicate. Il la vit s'approcher à pas menus de son lit et s'allonger près de lui sous la couverture. Il s'en trouva heureux comme une aubaine inespérée. Quand l'aube le réveilla, il ne sortit qu'à regret de son rêve. Le lendemain, à peine avait-il les yeux fermés, que l'émouvante apparition revint. Elle fit comme la veille. Il en fut encore saisi au soir de son troisième jour. Alors il se sentit inquiet et mal vivant. Il se dit que cette fille était décidément trop obstinée pour être faite de la brume dont sont tissés les songes. Le quatrième soir, il décida de se tenir en alarme. Il veilla bravement jusqu'à minuit. Puis, sa chandelle consumée, il ne put empêcher ses paupières de battre. Et ses yeux bientôt se fermèrent. À peine endormi, il vit la fille s'avancer vers lui. Mais comme elle soulevait la couverture pour se coucher contre son corps, il s'éveilla en sursaut et la saisit au poignet. Wang fut content de voir qu'elle n'était pas une créature de son esprit. Dans la lumière lunaire qui baignait la chambre, il admira sa beauté. Puis le cœur battant, il lui demanda qui elle était. Elle baissa la tête, honteuse autant qu'effrayée, et lui répondit « Mon nom est Lune d'automne. Mon père était un lettré fort savant en divination. Il m'aimait infiniment. Dès ma naissance, il sut que ma vie serait brève. Je suis morte dans ma 15e année. Il me fit enterrer dans le jardin de cette auberge. Rien n'indique ma tombe parmi les herbes. Mais auprès de mon cercueil enfoui est une dalle de pierre sur laquelle sont inscrits ces mots. Après 30 ans de mort, Wang viendra et Wang tu épouseras. Dans la paix, souviens-toi. Ces 30 années sont depuis 3 jours écoulées. Je n'ai pas osé me présenter à toi dans la pleine lumière du jour. Je suis trop timide et pudique. C'est pourquoi je suis venue en rêve. Maintenant, permets-moi de me retirer. » Comme Wang voulait la retenir, avide de l'entendre encore et de jouir de sa présence, elle leva la tête et lui sourit. « Je reviendrai. » Elle revint, aussi fidèle que les étoiles dans le ciel, et ils passèrent leur nuit à rire, à parler, à se caresser comme deux amants sans cesse émerveillés l'un de l'autre. Un soir, tandis qu'ils contemplaient la montagne par la fenêtre blottie côte à côte, Wang demanda à sa compagne s'il existait aussi des villes, des villages, des auberges dans le monde des morts. « Ah, tout y est exactement semblable, lui répondit-elle, sauf que là-bas, la nuit tombe quand ici se lève le jour. Ah, j'aimerais visiter ce pays d'où tu viens. » Elle lui affirma qu'elle pouvait l'y conduire à l'instant même. Il lui prit aussitôt la main, et ensemble, ils sortirent au clair de lune. Elle l'entraîna le long du fleuve, si vite qu'il se sentit galoper, le sol perdu, dans un tourbillon de vent noir. Ils franchirent un pont de bois, coururent éperdument sur une lande déserte, firent halte enfin dans un lieu ténébreux, où Wang, tendant les mains en aveugle, ne put distinguer le ciel de la terre. Seul lui resta vaguement lumineux le corps de lune d'automne. Comme il s'inquiétait de ne rien distinguer alentour, elle mouilla ses paupières de salive. Alors, il se découvrit sur un chemin crépusculaire où des gens se hâtaient vers une ville proche, ceinte de remparts et de tours, dont les cimes se perdaient dans les hautes brumes. Au bord de ce chemin, il resta un long moment pantois, tenant ferme la main de sa compagne. Puis lune d'automne lui demanda s'il désirait entrer dans la cité des morts. Comme il allait répondre, il vit passer deux gardes armés de lances qui traînaient un prisonnier enchaîné. Il reconnut aussitôt le visage et les vêtements de ce prisonnier. C'étaient ceux de son frère Nai. Il poussa un cri d'effroi, se précipita vers lui. « Frère, que fais-tu là ? » dit-il. « Pourquoi es-tu ainsi chargé de fer ?»« Je l'ignore, » répondit le malheureux. « Je me suis tout à l'heure réveillé entre ces gardes. Ils m'ont dit qu'ils avaient reçu l'ordre de me conduire en prison, mais je ne sais pas pour quel crime. » Wang, indigné, se tourna vers les soudards. « Mon frère est un honnête homme, » cria-t-il. « Vous n'avez pas le droit de le traiter ainsi. » Les deux hommes d'armes le repoussèrent en grognant des insultes et tirèrent impatiemment sur leurs chaînes. Nai, le prisonnier brusquement secoué, tomba en avant, le front dans la poussière. Alors Wang se prit de colère irrépressible. Il arracha son couteau de sa large ceinture, bondit sur les gardes et en deux éclairs de lame les égorgea. Lune d'automne, terrifiée, le tira de toutes ses forces par la manche. « Malheur, dit-elle, tu viens de commettre une faute épouvantable. Tu ne peux t'attarder ici. Rejoins le fleuve avec ton frère. Près du pont de bois, tu trouveras une barque. Elle vous conduira chez vous. Quand vous y serez, enfermez-vous dans la chambre où gît le corps de celui que tu viens de délivrer. De 7 jours entiers, n'en sortez sous aucun prétexte. Après ce temps, vous ne courrez plus aucun danger. Va !» Wang s'en fut droit vers le nord avec son frère. Il découvrit la barque dans un nid de roseaux sur la rive du fleuve. Il sauta dedans. Dès qu'il y fut, il se sentit emporté, comme sur une foudre sombre. Il tomba cul par-dessus tête, à la hâte se releva et aussitôt se trouva devant la maison familiale. Des bannières funèbres étaient plantées sur le seuil. Il entra. Ses sœurs et ses vieux parents, accablés de chagrin, accoururent à lui en gémissant qu'il arrivait à temps pour pleurer Nai, son aîné qui venait de mourir. Il les embrassa et s'enfuit à la chambre du mort. À peine y était-il entré que son frère se dressa sur son lit. Il bâilla, s'étira et déclara qu'il avait grand faim. Cette résurrection frappa la maisonnée de stupeur. Alors Wang fit asseoir ses parents et ses sœurs autour de lui et leur raconta tout ce qui s'était passé. Ils restèrent ensemble 7 jours enfermés. Puis la pensée de lune d'automne revint à l'esprit du jeune intrépide. Il s'en retourna donc vers le sud, espérant qu'elle l'attendait à l'auberge où ils s'étaient rencontrés. Le soir de son arrivée, comme il allait souffler la chandelle, il entendit grincer le plancher près de la porte. Il sourit, l'appela doucement. Une jeune femme apparut. Ce n'était pas lune d'automne. Elle s'inclina devant lui et dit « Votre épouse m'a chargée de vous présenter ses salutations. Après le meurtre des deux gardes, comme elle avait été vue en votre compagnie, elle fut arrêtée et jetée en prison. Sa situation est misérable. Elle espère votre secours. » Wang se leva d'un bond, se vêtit, planta son long couteau dans sa ceinture et demanda à la messagère de le conduire sur l'heure à la cité des morts. Elle lui prit la main et l'entraîna dehors. le voyage fut bref. Quand elle eut mouillé ses paupières de salive, il se vit, dans une ruelle humide, devant la porte d'une bâtisse, d'où montaient des relents moisis. Il franchit le seuil. Deux gardes voulurent l'arrêter. Il les poignarda. Par un étroit escalier de pierre, il descendit jusqu'à un souterrain où brûlaient des torches fichées dans la muraille. Le long de ce couloir étaient des cellules obscures. Partout dans ces réduits gisaient des prisonniers puants et haillonneux. Dans le dernier cachot, il trouva celle qu'il cherchait. Elle était assise sur sa paillasse, le front contre sa manche. Il la prit dans ses bras et l'emporta. Alors il entendit haleter et gémir. Il poussa un cri et se dressa. Il était couché dans sa chambre, à l'auberge. Il sentit à son côté le corps tendre et chaud de l'une d'automne. Il alluma la chandelle et dit, essuyant son front ruisselant de sueur, « Je viens de faire un cauchemar épouvantable. » Sa compagne s'assit près de lui sur le lit, posa la tête sur son épaule et murmura « Ce n'était pas un rêve. Depuis que tu as délivré ton frère, rien de ce que tu as vécu n'est illusoire. Tout s'est inscrit comme l'empreinte de tes pas sur ton chemin. Je suis en grand danger. Tu as été d'une imprudence impardonnable. Pourtant, toi seul peux m'arracher aux ténèbres qui me menacent. Il faut que tu ouvres ma tombe et que tu me réchauffes de ton souffle. Si tu ne cesses un seul instant de m'appeler par mon nom, dans 3 jours, je serai enfin redevenue une vraie vivante parmi les vivants, et mon père ne m'aura pas aimée en vain. » Elle se leva vivement et quitta la chambre. Il la vit par la fenêtre s'éloigner dans le jardin et soudain disparaître dans l'ombre lunaire d'un saule. Alors il sortit à son tour, et où elle s'était effacée du monde, il creusa. Il découvrit un cercueil pourri dans la terre lourde. Il arracha le couvercle. L'une d'automne était là, couchée. Son visage avait les couleurs de la vie. Il enveloppa son corps dans une couverture et l'emporta jusqu'à son lit. 3 jours durant, blotti contre elle, il murmura son nom à chaque souffle. Le premier jour, elle tiédit. Le deuxième jour, elle respira. Le troisième jour, elle ouvrit les yeux et sourit. Il revint avec elle dans son village et perdit le goût des voyages. L'une d'automne suffisait désormais à son bonheur. Il n'eut jamais d'autre épouse qu'elle. Elle était d'une grâce si aérienne qu'on eût dit une véritable immortelle. Parfois, quand elle sortait au bras de son époux, le vent semblait la soulever de terre. Ils en riaient ensemble. Ils vécurent ainsi une longue vie dans la paix du cœur. Laissez-moi maintenant vous raconter l'histoire d'Izanagi et d'Izanami. Au commencement du monde était le brouillard du néant. Et au-dessus de lui, le pont flottant du ciel. Sur ce pont apparurent un jour 2 vivants célestes, Izanagi et Izanami, sa sœur jumelle. Izanagi se pencha sur le brouillard opaque, plongea sa lance dans la grisaille et doucement la remua. Alors du néant sortit ce bruit. Kowuro, Kowuro, Kowuro. Izanagi retira son arme. À sa pointe était une goutte de cristal. Cette goutte s'allongea, tomba, mais ne se perdit point. À peine détachée du fer de la lance, elle s'étendit et devint une île suspendue entre le ciel et le vide. Sur cette île, Izanagi et sa sœur Izanami descendirent, et au milieu d'elle, dressèrent une haute colonne. Quand ce fut fait, ils se regardèrent. Ils étaient nus. Ils virent que leurs corps n'étaient pas tout à fait semblables. Ils en rirent, s'émerveillèrent, et comme ils se touchaient l'un l'autre, l'envie leur vint de s'unir. Alors Izanagi fut, par le jeu vers la droite de la colonne, Izanami vers la gauche, et mimant les étonnés de l'autre côté du large pilier, ils se rencontrèrent. « Oh, le beau jeune homme !» dit Izanami, ouvrant les bras. « Oh, la belle jeune fille !» dit Izanagi, pareillement joyeux. Et ils s'étreignirent, délicieusement. De leur première union naquit une sangsue. De la deuxième, un îlot d'écume. Cela ne leur plut guère. Peut-être, se dirent-ils, n'avons-nous pas agi comme nous aurions dû. À nouveau, Izanagi s'en fut vers la droite de la colonne, Izanami vers la gauche. Quand ils se rencontrèrent, ils jouèrent encore les promeneurs surpris, mais ce fut cette fois le frère qui le premier parla. « Ouh, la belle jeune fille !» dit-il tout rieur. « Oh, le beau jeune homme !» répondit sa sœur. Et à nouveau, ils s'enlacèrent. De leur troisième union naquirent les 8 îles du Japon. Mais aussi la mer, les continents, les saisons, les arbres, les montagnes, l'esprit du feu. Mais comme ce dernier enfant sortait du ventre d'Izanami, sa mère, dans sa fougue ravageuse, il la brûla cruellement. Elle se coucha, vomit en foule des oiseaux, des bêtes terrestres, et mourut. Son frère Izanagi, devant son cadavre, tomba à genoux. Il pleura sur elle 7 jours entiers, le visage dans ses mains. Puis il l'ensevelit. Quand ce fut fait, il empoigna son sabre, trancha la tête de l'esprit du feu et le démembra. Du sang de cet être impétueux naquirent les plus indomptables parmi les créatures du monde. Izanagi, demeuré seul, s'en fut erré tristement par les cieux et les terres. Or un jour, comme il se sentait fatigué de vivre sans bonheur, le désir déraisonnable lui vint d'aller chercher sa sœur bien-aimée au royaume de la nuit. Il descendit donc dans cette contrée dont il ignorait les chemins. Après longtemps de voyage, il parvint devant la porte du palais des ténèbres. À cette porte, il frappa. C'est sa sœur qui vint lui ouvrir. « Reviens avec moi, lui dit-il, nous avons encore tant de choses à créer, des pays, des êtres, de nouveaux océans. » Elle lui répondit, hélas, « J'ai goûté aux fruits de ce royaume. Je ne peux te rejoindre sans la permission des esprits de la nuit. Attends-moi, je vais parler à ceux qui me tiennent prisonnière. Jusqu'à ce que je revienne, ne bouge pas d'ici, surtout ne franchis pas ce seuil. » Et elle disparut. Izanagi attendit, s'impatienta, attendit encore, s'inquiéta de ne point la voir revenir. Il l'appela, nul ne lui répondit. Alors, il poussa la porte du palais des ténèbres et d'un pas franc, entra. Il se trouva dans un long couloir sombre. Il ôta l'un des 2 peignes qui tenait sa chevelure, le frotta vivement contre la paroi et ainsi en fit jaillir une flamme. À peine avait-il levé ce flambeau devant lui qu'il découvrit sa sœur couchée dans un cercueil pourrissant. Des grouillements de verre creusaient son visage et son corps. Elle était épouvantable à voir. Quand elle aperçut son frère, elle frissonna, se dressa, ouvrit ses lèvres rongées. « Malheureux, dit-elle, je ne te pardonnerai jamais de m'avoir surprise dans l'état honteux où je suis. Je te déteste, sois 1000 fois maudit !» Izanagi, pétrifié, prit la fuite. Izanami, follement agile, le poursuivit. Quand il entendit ses dents grincer et ses mains griffues déchirer l'air dans son dos, il jeta derrière lui son peigne enflammé. L'objet, à peine lancé, se métamorphosa en une grappe de raisin noir. Izanami fit halte, ramassa cette grappe de raisin, la dévora, puis reprit sa course, les cheveux crépitants d'éclairs. À peine Izanagi avait-il couru sans enjamber qu'il sentit à nouveau le souffle puant de sa sœur morte sur sa nuque. Alors il jeta son 2e peigne par-dessus son épaule. Aussitôt surgirent du sol 1000 pousses de bambou. Izanami, affamé, les arracha par poignées et les engouffra dans sa bouche grimaçante. Tandis qu'elle tentait d'apaiser ainsi la famine qui rongeait son ventre, Izanagi, courant de toutes ses forces, parvint au seuil du monde des vivants. C'était un étroit passage entre deux rocs où poussait un pêcher miraculeux. À bout de souffle, il se laissa tomber à l'ombre de cet arbre et se tourna vers le vaste espace gris qu'il venait de traverser. Alors il vit déferler sur lui l'effroyable nuée de guerriers de la nuit, conduite par sa sœur échevelée. Il lança à ses démons trois pêches du péché miraculeux. La horde disparut en une fumée gémissante qui emplit le ciel. Seule demeura sur la plaine sa sœur, Izanami, la morte effrayante qu'il avait tant aimée. Il bondit au-delà du roc qu'elle ne pouvait franchir et lui cria « Mère de mes innombrables enfants, plus jamais je ne chercherai à te sauver. Je te chasse de mon âme. Désormais, je n'éprouverai pour toi que dégoût, je te répudie. Frère plus cher à mon cœur que tous les fruits du monde, gémit Izanami, si tu fais cela, je dévorerai chaque jour 1000 de tes semblables. » Sœur repoussante, lui répondit Izanagi, si tu dévores chaque jour 1000 de mes semblables, je ferai enfanter chaque nuit 1000 femmes aussi jeunes et belles que tu l'étais au temps de nos amours. Et c'est ainsi que furent créées la vie et la mort, bonnes gens. Ne désespérez pas. Il est dit qu'un jour, Izanagi et Izanami se réconcilieront pour le bonheur des hommes et des femmes. Alors, patience. What a wonderful world. Il est déjà temps de nous quitter, c'est vite passé en compagnie de ces contes d'Asie. On se retrouve le mercredi et le samedi à 16h et d'ici une retrouvaille, racontez-vous des histoires.